Bonsoir chère Émilie.
Bonsoir Arnaud et bonsoir à tous. Alors, dans la continuité de la revue de presse musique de jeudi dernier, on reste aujourd'hui dans la thématique révolutionnaire. Mais il sera moins question ici de révolution et de révélation purement musicale que politique aujourd'hui. Oui, parce que juste après la revue de presse musique donc de jeudi dernier, Jean-Jacques Goldman jugeait bon de quitter Les Enfoirés. Alors moi, j'y vois aucun lien de cause à effet. Et ce n'est pas tant l'acte qui interpelle que sa justification. Sylvain Sicilier du Monde rapporte les mots que le chanteur et auteur de l'hymne des Restos du Cœur a publié vendredi dernier sur le site web des Enfoirés. Je les cite. Ce sont les 30 ans de la chanson, mais également l'année de mes 65 ans. Et après 30 ans d'Enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle mission. Fin de citation. Alors, on peut penser ce qu'on veut musicalement des Enfoirés, et je me garderai bien de donner mon avis ici. Mais cette annonce du chanteur pose la question de l'engagement politique, social des musiciens et de leur musique. Un engagement qui demeure au centre de la démarche de ces artistes tunisiens dont Courrier International se fait l'écho. Reprenant un article du journal La Presse, Khaled, Nourzamen, Souheib, Ragda, Mounib et Mehdi, ce sont les noms du collectif Art is an Arm, que le journal traduit par L'Art est une arme. La journaliste Narges Torchani raconte l'acte de bravoure de ces musiciens, 22 ans d'âge en moyenne, lycéens, étudiants, autodidactes, sortis du conservatoire. Et au lendemain, en effet, des affrontements très violents entre les forces de l'ordre et les djihadistes de Daesh à Ben Gardan en mars dernier, ces musiciens se sont réunis devant un centre commercial en plein centre-ville de Tunis et ont joué en brandissant une pancarte « Nous allons combattre le terrorisme avec l'art ». Nous avons décidé, disent-ils, de faire notre part dans la société et d'exercer notre citoyenneté par la musique. Et ce, malgré parfois l'intervention de la police qui, un jour, raconte-t-ils, les ont obligés à signer un engagement de ne plus occuper la rue, alors que ce n'est pas interdit, selon leurs mots rapportés par la journaliste tunisienne, journaliste qui précise « Ici, la rue n'est pas celle de la marginalité, mais celle de la réappropriation. Il y a un contexte commun, celui de la difficulté financière de louer une salle de concert ou d'intégrer une boîte de production et un circuit commercial. » Un circuit économique difficile là-bas qui fait écho à ce que traverse ici le festival Musique Métis. Patrick Labesse du Monde raconte que certains musiciens ont baissé leur cachet, que d'autres ont joué gratuitement. Musique Métis, annonce le journaliste, prend cette année des allures de concerts caritatifs. Plusieurs artistes se sont en effet mobilisés pour que cette 41e édition puisse voir le jour. Et parmi ceux présents, le percussionniste Inor Sotolongo qui se dit honoré de participer à ce festival de résistance. Et il y a aussi notre invité de la semaine à la dispute, Bachar Mahalifeh, le chanteur libanais, dont l'album Ya Balad a été censuré le mois dernier par les autorités de son pays, à cause notamment du titre Kairi Eleison, mis en cause pour atteinte à l'entité divine, apprend-on dans cet article. Et le journaliste conclut sur les mots du chanteur qu'il a écrit sur sa page Facebook. Je l'ai chanté à Beyrouth comme je la chanterai partout où je voudrais crier un ras-le-bol des institutions politiques ou religieuses qui veulent régir nos vies comme on vivait au Moyen-Âge, un message confie le chanteur ou journaliste qu'on ne peut pas faire jaillir avec une telle force ailleurs que dans un festival comme Musique Métis. Et il faut croire que ce cas de censure n'est hélas pas si rare dans le monde de la musique. Le Journal des Arts rapporte les résultats d'une étude sur les attaques contre la liberté artistique, 4e rapport de ce genre publié par l'organisation Free Muse. Selon l'étude en question Art Under Threat, l'art sous la menace, qui a été menée dans 70 pays, il s'avère que le secteur de la musique est le plus touché par ces atteintes à la liberté. 310 cas ont été observés en 2015, dont 223 concernent des censures en Chine, en Iran, en Russie, surtout top 3 des pays où les musiciens subissent le plus de répression. La Russie contre qui une voix s'est élevée à l'occasion de l'Eurovision, nous rapporte Libération. Djamala, la grande gagnante de l'Eurovision samedi dernier. Djamala, une tatare de Crimée qui gagne l'Eurovision, donc sous les couleurs du drapeau ukrainien. Le journaliste Renaud Rebardi souligne ainsi que la gagnante met à mal le discours de Vladimir Poutine selon lequel la Crimée serait une terre historiquement russe. L'histoire d'une terre est la souffrance d'un peuple qui se retrouve en filigrane, selon les mots du journaliste dans la chanson, qui a fait gagner Djamala. À tel point, apprend-on, que la délégation russe aurait tenté de faire interdire sa participation au concours européen au motif que sa chanson comportait un message politique. politique, ce qui est interdit par le concours. Parfois, constate Renaud Rebardi, les chansons font l'histoire plus que les petits hommes verts armés, ceux qui sont venus installer l'ordre russe en Crimée en mars 2014. Les chansons font l'histoire et les chanteurs, même les plus subversifs et anticonformistes, entrent aussi dans les musées, comme le souligne Nicolas Ungermuth du Figaro magazine. Les figures de Bowie, des Stones, du Velvet. On peut voir dans cette canonisation inédite du rock un troublant paradoxe, constate le journaliste. D'un côté, cet anoblissement soudain semble bien risible au regard du message subversif qu'il véhiculait à ses débuts. De l'autre, ceux qui se battaient avec leurs parents pour expliquer que oui, les Stones ou le Velvet étaient à prendre au sérieux peuvent prendre cette reconnaissance tardive comme une revanche, une consécration méritée.